Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Sarah Sepulcre.
Je m'appelle Arlette Zilberberg et je suis responsable de la fiction à la RTBF et je dépends de la direction des antennes, donc de Yves Bigot.
Ça veut dire que vous êtes responsable des fictions du côté production, c'est bien ça?
Voilà, oui, oui. Je suis responsable de tout ce qui est coproduction de fiction. Oui.
Production et coproduction de fiction, ça veut dire quoi en clair? Ce métier, ça consiste en quoi?
Alors, il faut savoir que la RTBF ne produit rien, elle coproduit, toujours. Donc, tout ce qu'on fait, se fait toujours par l'intermédiaire des producteurs indépendants. C'est notre lien direct. Donc, si des Français, des Suisses ou d'autres, ou des Québécois viennent nous voir pour nous proposer des projets, ils doivent travailler avec une maison de production belge. Et c'est la maison de production belge qui vient vers nous, principalement.
Et votre rôle consiste donc à négocier ce lien avec les producteurs?
Oui, alors effectivement, ma fonction de responsable de la fiction est prioritairement ce lien entre la profession, les producteurs indépendants et la RTBF, oui, oui. La négociation des obligations, etc. Et le suivi de tout ce qui a été décidé, par exemple, au niveau du nouveau contrat de gestion.
Vous coproduisez parfois des fictions avec France 2, par exemple, ou avec la France. Et donc, ce sont des fictions dont il y a un épisode belge, par exemple. Mais 7e ciel est une série purement belge. C'est important.
C'est-à-dire que ça reste le même système de coproduction, en fait. On pourrait imaginer que demain, France 2, France 3 coproduisent ou Melting Pot ou 7e ciel ou une autre série. On a plus tendance à dire production parce qu'on les a initiés, parce que c'est des projets qu'on initie. Mais ce sera toujours des coproductions. Aujourd'hui, plus rien ne peut se faire au niveau coût sans que ce soit en coproduction.
Est-ce que c'est important d'initier des séries? C'est une manière, par exemple, de faire passer quoi, des questions belges?
Oui, c'est très important parce que ça nous permet d'apporter notre univers et d'essayer de les financer, d'apporter de l'argent de manière un peu plus importante que dans une coproduction sur laquelle on rentre et dont on n'est pas initiateur, pour pouvoir, à un moment donné, être plus maître et ne pas se faire manger par nos partenaires qui, fatalement, peuvent mettre plus d'argent sur la table que nous.
Or, on parle beaucoup pour le moment d'un effet mode des séries actuelles. D'ailleurs, on les voit partout. Je pense que Rome, hier, était sur toutes les lèvres, toute la journée, dans les infos. Quel est votre point de vue sur cet effet mode, soudain, sur les séries télé?
Ça augmente la pression dans tout le domaine de la fiction. Ça augmente la pression pour notre acheteuse, ça augmente la pression chez nous, parce que on dit, t'as vu les premiers montages de 7e et de Melting, c'est comment, hein? C'est bien. Oui, oui, mais c'est bien bien ou c'est bien très bien? Ah ben, non, non, c'est très bien. Oui, mais c'est très, très, très bien, vraiment très, très bien. Oui, c'est très bien, voilà, c'est fatalement la surenchère qui monte.
Est-ce que d'un autre côté, c'est pas plus intéressant de travailler et d'avoir un travail reconnu?
Ah oui, ça c'est sûr, oui, oui. Ça c'est certain d'avoir l'opportunité de faire ça. Avoir eu l'opportunité de relancer les séries à la RTBF dans les difficultés financières qu'elle avait, ça a été une formidable challenge et un bonheur vraiment incroyable. C'était vraiment super chouette qu'on nous laisse l'opportunité de faire ça. Et pour ça, la direction de la RTB... Et très certainement remercié. Mais alors, la pression derrière, elle est immense. Hein. Elle est le double.
Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de séries télé sur les antennes de la RTBF, en tout cas. Mmh. Vous êtes donc reparti de zéro?
Voilà, mais je pense que... Donc oui, c'est effectivement, ça faisait plus de 20 ans. On peut dire que c'est... Si le dernier, ça doit être Le Bonheur d'en face, réalisé par Teferat. On est parti de rien, mais on a bénéficié d'une énorme expérience de la VRT, qui eux font des séries depuis plus de 10 ans, et donc on a été un peu pompé leur savoir-faire, bien que les sujets qu'ils abordent ou la manière de les traiter soient très différentes, et aussi le fait que nous soyons beaucoup plus exposés aux séries françaises, et que donc là il y avait une exigence pour nous face à tout ce que nos téléspectateurs ont accès par rapport aux flamands, évidemment.
Comment vous expliquez ce trou de 20 ans de séries sur les antennes de la RTBF?
Le manque de moyens, tout simplement.
On peut dire que l'ARTIB a des moyens maintenant, alors
Disons qu'elle en a eu pour pouvoir lancer les séries. Après, il faudra effectivement, dans les années qui viennent, trouver les moyens de les financer, parce qu'on ne pourra pas continuer comme on a fait sur la première série de 7e Ciel et la deuxième saison, et la première saison de Melting Pot, c'est-à-dire presque un financement 100% RTB.
Donc ça veut dire qu'il y a une réelle volonté de la RTBF de faire des productions et d'investir dans ce domaine qui peut être un domaine finalement à perte, en tout cas au début?
Ben, je pense que c'est un choix de la RTB, mais ce sera aussi une obligation dans l'avenir. Je pense que quand on voit aujourd'hui que les séries qui passent sont déjà en vente, en DVD, sur le net, bien avant qu'elles soient diffusées, dans leur deuxième diffusion sur une chaîne en clair, ben, la télé demain, elle appartient aux chaînes de télé qui produiront. Donc ce sera indispensable de produire, oui.
C'est très marrant parce que les deux premières séries que vous refaites donc après ce trou de 20 ans sont deux comédies. Vous aviez certainement pas envie de faire du polar à la française, c'est pour ça que vous faites des comédies?
Oui, ça a vraiment été une volonté première, c'est de ne pas se lancer dans quelque chose où la comparaison était possible d'office, quoi. C'est-à-dire d'aller vers dans des genres où il n'y avait pas de comparaison.
Melting Pot et 7e Ciel, vous avez d'autres projets déjà en tête ou pas du tout?
Oui, moi j'aimerais bien effectivement après monter éventuellement à un moment donné une série judiciaire, parce que je pense que on a eu pas mal d'affaires en Belgique au niveau judiciaire et que peut-être à un moment donné ce serait intéressant de montrer un point de vue par rapport à ça. On a déjà fait 2-3 tentatives, mais qui ne nous satisfaisaient pas au niveau écriture. Donc on continue à écrire autour de ça. On a une série comédie dans le style de 7e Ciel et de Melting, qui continuerait dans cette veine-là. On a une série de thrillers ardennais, qui se passe dans les Ardennes. Enfin voilà, on a pas mal de choses qui sont en gestation, oui.
7e Ciel, elle a été critiquée pour certains aspects. Est-ce que la seconde saison, vous avez tenu compte des critiques qui ont été formulées par la presse notamment?
Oui, il faudrait être fou pour ne pas tenir compte des critiques, hein. Je crois qu'on a pêché par notre souhait, et le mien, je l'avoue très franchement, de faire quelque chose qui ne fasse pas fuir notre public et qui puisse en amener à nouveau. Alors, je dirais, dans ce sens-là, si on regarde ce qui s'est passé, on a réussi. Parce que on n'a pas fait fuir le public, on en a amené un public beaucoup plus jeune. Mais évidemment, le reproche qu'on peut faire, c'est que ce soit un produit trop rond et trop lisse. Et oui, effectivement. Mais on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus trash. On aurait peut-être perdu nos publics. On aurait peut-être acquis à nouveau, mais peut-être pas suffisant non plus. Donc, je pense qu'on a fait un compromis à la belge. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous permet peut-être de faire une deuxième saison.
Et la deuxième saison sera donc moins consensuelle?
Oui, tout à fait, oui. Elle est plus. Voilà, on va dire. En tout. Les intrigues sont plus fortes, ça va plus vite. Voilà.
Comment ont réagi les téléspectateurs? Vous avez eu des retours?
Par rapport à la première saison de 7e Ciel? Oui, et vraiment une immense bienveillance. Par le fait qu'on avait osé, qu'on l'avait fait, qu'on avait été au bout, et que même s'il y avait des défauts, elle tenait la route. Et surtout, un fort soutien de dire « allez-y, continuez, c'est ça qu'il faut faire, et surtout n'arrêtez pas ouais. ».
C'est chouette quand même, parce qu'on pourrait dire qu'ils auraient pu être très critiques s'ils comparent 7e Ciel, par exemple, à Desperate Housewives que vous avez cité.
Oui, tout à fait, ils ont été très indulgents. Et très très chouette. Non, franchement, je pense que même les critiques qu'on a eues dans la presse, on a toujours reconnu qu'au moins ça existait, au moins on avait essayé. Et finalement, j'ai zappé parce que ça m'arrangeait, j'ai pas tellement eu l'impression qu'on nous a dit vous auriez pu faire tellement autre chose. Je pense qu'on a reconnu le fait que pour relancer les choses et pour une première série, finalement, on s'était pas tellement planté.
C'est la série qui va vous permettre peut-être de faire les choses que vous n'avez peut-être pas osé faire après.
Oui, voilà. Je pense que si on avait fait plus fort tout de suite et qu'on s'était planté, on se serait pas relevé. La première saison de 7e Ciel, elle a plu. Elle était peut-être trop ci, trop là, pas assez ça. Mais elle a généré un public assez stable, une audience assez stable, avec une part de marché de 14%, qui finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer de mieux.
Ce qui est très drôle dans les séries, c'est que finalement, dans les années 60, tous les pays semblaient un peu à égalité. Il y avait des séries très reconnues en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Et on a l'impression que sur les décennies qui ont suivi, les États-Unis ont pris l'aval. Vous avez une explication de ça, du fait que les États-Unis ont beaucoup plus produit et mieux peut-être que l'Europe?
Je pense qu'on s'est dit qu'on pourrait mieux marquer notre identité dans des produits plus unitaires et que dans des séries. Et je pense aussi que ça a toujours été lié aux problèmes financiers, tout simplement.
Est-ce qu'on peut dire donc que par retour, finalement, les USA nous ont imposé un peu leur format sériel?
Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo, oui. Oui, là, maintenant, aujourd'hui, on rentre obligatoirement dans les formats que les États-Unis nous imposent, que nous imposons à nos téléspectateurs puisqu'on les diffuse. Et donc, fatalement, on est obligé de se formater à l'habitude télévisuelle qu'on donne à nos téléspectateurs dans nos propres production et coproduction, oui.
Mais ça peut être un bien aussi, on peut dire que plus court, c'est plus efficace dans l'écriture, par exemple.
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui bien sûr, c'est une autre manière d'écrire, et de toute façon, je veux dire, avec le paysage audiovisuel qu'on a aujourd'hui, il faut travailler dans ce créneau-là. Tout va de plus en plus vite, les gens veulent les infos plus vite, il faut tenir l'œil plus vite, les gens... passe très vite d'une chose à l'autre. On le voit avec les jeunes, hein. Ils sont occupés avec leur jet, en même temps ils ont un œil sur la télé, en même temps ils recherchent des infos sur internet, et pendant que la recherche se fait, on envoie vite un SMS et on regarde vite si le programme qu'on avait envie de voir a déjà commencé. On programme en même temps son enregistrement, enfin on fait 15 choses à la fois, donc on est obligé de travailler dans le monde dans lequel on vit.
On pense généralement que la fiction européenne est moins bonne que la fiction américaine. Est-ce que vous êtes optimiste à ce niveau-là sur le futur?
Ben oui, je pense qu'il faut l'être, sinon on ne serait pas là. Hein. Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois arriver de nouvelles séries américaines, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont forts. Comment on va faire pour un jour pouvoir atteindre cette qualité-là? Mais il faut se dire aussi qu'on voit ici que le haut du panier est de ce qu'ils font. Qu'il y a pas mal de déchets autour. Ça vaut la même chose pour le cinéma. Hein, quand on se dit cinéma américain, mais on voit quoi? On voit 10%, 15%, 20% maximum de leur production. Donc ils se permettent de pouvoir jeter ce que nous, on peut évidemment financièrement pas se permettre.
Je peux pas ne pas vous poser la question, vu les derniers événements médiatiques sur la RTBF. Est-ce que dans la fiction, il y a aussi nécessairement maintenant de la docu-fiction?
Oui, ben inévitablement, oui. Docu-fiction, ça va devenir un genre en soi. Et il faudra peut-être à un moment donné se poser la question de s'il ne faut pas ouvrir un département particulier qui ne soit pas du documentaire, qui ne soit pas de la fiction, et qui soit un département docu-fiction, oui, bien sûr. Il y a des événements ou des choses qui ne pourront se traiter à l'avenir qu'en docu-fiction. Je pense qu'à un moment donné, il faudra se dire, on n'a pas abordé tel genre de sujet, quel est le créneau le mieux pour traiter ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir toucher mieux le public en le traitant en fiction pure, en le traitant en docu-fiction ou en le traitant en documentaire pur, oui.
Les podcasts d'AFDS.tv aux frontières des séries.